France Inter, le 18-20.
Et s'il était là, le nouveau grand combat LGBT à venir et en cours, celui des trans, non pas que la discrimination envers les gays et lesbiennes soit terminée et qu'il n'y ait aucun problème d'homophobie à régler, évidemment que non, mais les trans sont ciblés en ce moment. Il y a eu des attaques dans le 17e arrondissement de Paris, notamment assez récemment, en face même carrément du centre LGBT à Paris le mois dernier. Les chiffres du dernier rapport de SOS Homophobie, on en parlera bien sûr ce soir, parlent d'une augmentation des actes transphobes, agressions verbales ou physiques, de plus 54%. La législation a fait des progrès. On peut désormais changer son prénom et la mention de son sexe sur ses papiers d'identité. On n'est plus obligé, longue bataille, d'avoir été opéré pour cela. Mais néanmoins, difficultés dans le travail, rejet, exclusion, violence. On est si mal informé sur ce qui touche au genre, finalement, en France. Toujours si frileux, voire gêné d'en parler, disons les choses clairement. La visibilité est quasi zéro chez nous pour les trans. Les transgenres sont rentrés dans la pop culture aux États-Unis. Laverne Cox, dans Orange is the New Black, a fait la une de Time Magazine il y a un an ou deux. Transparente est une série très regardée où l'a été, nous. Des images, des références, on en a finalement très peu. Plus belle la vie est la première série à avoir eu un personnage trans, c'est vrai. Le film belge Girl a ému le Festival de Cannes ce week-end. Il sera visible en salle en octobre. Et puis c'est à peu près tout. Bref, que de progrès reste à faire. On en parle ce soir, soyez les bienvenus.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Roman, c'est vous qui commencez. Soyez la bienvenue au téléphone sonne. Bonsoir.
Bonsoir. Vous faites un petit peu peur aux trans, peut-être avec une intro comme ça.
Vous trouvez mince. Attendez, rassurez-nous, dites-nous que la vie est pas si moche.
Bah voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Alors récemment, par exemple, je repensais, j'ai fait l'objet d'un article de l'agence France Presse qui a été repris dans 70 médias. Ça, c'est pour répondre au fait qu'il n'y a pas de visibilité.
Il y en a un petit peu quand même. Ouais, mais du coup, ça veut dire, Roman, quand même, que vous êtes toute seule multipliée par 70, du coup. Ça veut dire qu'il n'y en a pas 70. Non, mais sérieusement.
Oui, un peu de ça, peut-être.
Allez-y.
Donc, en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas forcément que du noir, mais aussi, il y a des gens qui sont privilégiés dans toutes les situations. C'est vrai que moi, personnellement, j'étais auparavant un homme hétéro, blanc, de classe moyenne, cadre, et je suis devenu trans. Mais je pense que je porte aussi toujours le soutien de cette ancienne situation, si vous voulez. Si j'étais sans papier, réfugié, vous voyez, tous les motifs de discrimination qui peuvent exister dans notre société, si on cumule les discriminations, si tout ça, évidemment, la vie est en enfer. Et après, c'est difficile, évidemment, de se battre contre toutes ces discriminations. Moi, j'ai essayé de me battre pour le fait de ne pas être discriminé, tout simplement en étant moi-même. Je dis pas que je me mets pas en héros ou héroïne ou quoi que ce soit, ou exemple à suivre, hein. Mais c'est vrai que parfois, le fait d'essayer de respecter ce qu'on est, les gens peuvent aussi vous suivre dans cette voie, dans cette décision.
Et vous, ça a été facile d'en parler, d'en discuter autour de vous. Vous parlez de votre milieu, vous dites hétéro, blanc, classe moyenne, surtout. C'était quoi votre milieu, en fait?
C'est une famille tout à fait normale. Ma mère est enseignante, mon père était cadre dans la sidérurgie. Ouais, enfin,
et le boulot, vous travaillez dans quoi, Roman?
Alors, si vous voulez, justement, pour accompagner ma transition, j'ai monté mon agence dans les sports mécaniques.
Ah waouh.
Oui, parce qu'en fait, j'ai pas choisi ça par hasard, parce que c'est ma passion depuis toujours, et parce que je connaissais déjà beaucoup de monde dans ce milieu. Donc, si vous voulez, ça a été plus simple parce que j'avais pas besoin de découvrir quelque chose de nouveau. J'ai imposé un peu mes connaissances dans ce domaine-là, quoi. Donc maintenant, je suis quelqu'un, je pense, un petit peu reconnu dans ce métier. En tout cas, j'arrête pas de refuser du travail. Donc voilà.
Eh ben, écoutez, tant mieux, Roman, et merci beaucoup pour ce témoignage positif.
Je peux ajouter un tout petit peu.
Je vous en prie, ouais, bien sûr.
Simplement, la confusion trans et homo. Attention à regrouper les LGBT, c'est bien, mais c'est un peu une solidarité des discriminations aussi. Et je pense que nous, on a juste la volonté de se faire appeler madame ou monsieur. Après, notre sexualité, par exemple la mienne, je suis sûr que les gens ne la connaissent pas. Je n'ai pas de partenaire, donc les gens ne savent pas si je préfère les hommes ou les femmes actuellement.
D'accord.
Donc c'est quand même
parce que vous avez l'impression qu'il y a une qu'on assimile les trans aux homos, c'est ça? Vous avez l'impression qu'on fait ce genre de confusion?
J'ai l'impression, effectivement, oui, tout à fait. Nous, on est des gens qui pourrions nous fondre dans la masse. À la limite, si on ne reconnaissait pas de temps en temps notre taille, notre pomme d'Adam et j'en passe. Mais sinon, si vous voulez, c'est pas une question de je couche avec des hommes, des femmes. Oui, c'est très différent.
Merci, voilà. Roman. Merci pour ce premier témoignage qui lance parfaitement bien le téléphone sonne. Et pour en discuter ce soir, pour débattre entre nous jusqu'à 20h. Clémence Zamora-Cruz est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de l'Inter-LGBT. Bonsoir Joël Demier.
Bonsoir.
Vous êtes président d'SOS Homophobie. Bonsoir Pascal Petit.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de l'association Le Refuge et aussi réalisateur.
Je suis juste administrateur.
Administrateur, autant pour moi. Ben voilà, je vous ai monté en grade, peut-être même que je vous ai permis d'avoir une augmentation là tout de suite, si les gens du Refuge vous écoutent. Je voudrais qu'on revienne sur ce, ce témoignage de Romane, Clémence Zamora-Cruz, qui est un vrai témoignage positif. Ça fait du bien à entendre, parce qu'on va évidemment beaucoup parler de moments qui sont compliqués, mais parfois non, en fait, et c'est le cas de Romane.
Oui, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ces témoignages, et une des choses qui est frappante aussi, c'est la question du genre. En fait, on connaît très peu des choses sur le genre, et il y a beaucoup des personnes trans qui, quand parlent du genre, se réfèrent à un genre binaire. Mm-hmm. Et en fait, le genre est beaucoup plus large que ça. C'est pas seulement d'être femme ou homme. Il y a des personnes qui ne s'identifient pas ni au genre homme, ni au genre femme, mais qui s'identifient en étant au-delà de cette cadre binaire. Parce que le genre, c'est une galaxie, c'est une infinité de possibilités, et oui, on connaît très mal la question du genre.
Pascal Petit, est-ce qu'on est plus frileux qu'ailleurs, finalement, nous, sur la fluidité du genre, effectivement?
Oui, on est beaucoup plus frileux qu'ailleurs. Il suffit de voir, par exemple, ce qui se passe aux Pays-Bas, voir qu'on a à peu près 15 ans de retard par rapport aux Pays-Bas. Et là, vraiment, en France, on est vraiment très, très en retard. Je voudrais juste revenir sur la solidarité de discrimination dont parlait Romane tout à l'heure. Oui, il y a une solidarité de discrimination, effectivement. Au refuge, il y a eu d'abord, quand le refuge a été créé en 2003, c'est d'abord les gays, les lesbiennes, et puis il y a eu un afflux d'appels de jeunes trans qui étaient rejetés par leurs parents. Donc effectivement, oui, il y a cette discrimination que tout le monde a en commun.
Quand je disais que c'était le prochain combat, est-ce que c'est l'idée, encore une fois, c'est pas l'idée de se dire qu'il n'y a plus de combat pour les gays, les lesbiennes qui sont discriminés, mais est-ce qu'il y a un souci de mise en avant, de visibilité, en fait, Joël Demy, à faire auprès des trans, en France?
Tout à fait, il y a un vrai combat pour la visibilité des personnes trans. Bien longtemps, les personnes trans étaient invisibilisées derrière les gays, derrière les lesbiennes, derrière les personnes bi aussi. Aujourd'hui, on a besoin de modèles positifs de personnes trans dans la société. Vous parliez de séries, de Plus belle la vie, de différentes figures publiques qui se disent publiquement trans. Je reviens sur le chiffre de 54% des actes transphobes constatés dans le dernier rapport annuel des SOS Homophobie. On peut se dire que c'est un chiffre très important. Et oui, c'est un chiffre alarmant parce que la transphobie persiste dans notre pays. C'est un véritable fléau. Mais pour autant, on peut se dire aussi que l'augmentation des témoignages de personnes trans victimes de transphobie est une bonne nouvelle dans la mesure où ça montre que les personnes trans parlent beaucoup plus qu'avant des violences dont elles sont victimes. Donc elles sortent de la loi du silence, elles témoignent, elles parlent, elles osent aller au commissariat, à la gendarmerie pour porter plainte sur les actes transphobes et sur la discrimination. Donc c'est un chiffre alarmant, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que les personnes trans parlent beaucoup plus qu'avant.
Tiens, ce message sur franceinter.fr. Parents d'une fille depuis bientôt 16 ans. L'été dernier, elle nous informe qu'elle ne se sent pas bien dans son genre de naissance. Elle est en pleine réflexion et souhaite être neutre depuis peu. Elle est il, nous dit cette auditrice, et nous reproche de ne pas en tenir compte. Ses professeurs non plus d'ailleurs n'ont pas accepté. Nous sommes perdus. Quoi faire? Quelle attitude adopter en tant que parent? C'est toujours compliqué, Clémence Zamora-Cruz. Comment on commence? Par où on commence quand on est parent dans ces cas-là?
On commence par aimer son enfant tel qu'il est, ou elle est.
Ce qui semble être le cas là, de notre auditrice. Oui. Après, c'est comment je lui parle, en fait?
Alors, en fait, il faut l'écouter. C'est très souvent, on veut des remarques, on veut des paramètres. Et en fait, sur les questions des transidentités, les paramètres n'existaient pas. Puisque tout à l'heure, on a dit que le genre, il est énorme. C'est un univers à part et qu'on connaît très peu de choses sur le genre. Donc, il faut écouter d'abord son enfant. Savoir ce qu'il veut, comment il s'est autodéfini, et ensuite simplement le soutenir. Le soutenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va l'accompagner jusqu'à pour faire son cheminement et s'arrêter là où il veut, en fait. Et c'est toujours très difficile pour les parents puisque les institutions n'ont pas de repères non plus. Et quand on part au niveau de l'éducation nationale, par exemple, il y a très peu de personnel qui est sensibilisé à la question de la transphobie, et non seulement de la transphobie en général, mais surtout la transphobie qui est ordinaire. C'est-à-dire le fait de nier l'identité à quelqu'un, c'est un acte violent pour une personne qui est concernée.
Comment ça se passe à l'école, Pascal Petit? Parce qu'effectivement, quand on est plus âgé, quand on est plus vieux, qu'on peut aller faire changer son nom si on le souhaite, si on en est à ce stade, etc., c'est très différent lorsque on est une ado de 16 ans et que subitement on a envie d'être il ou on a envie d'être elle si on ne l'était pas au départ.
C'est compliqué dans la cour de récré, c'est très compliqué. Et je crois que les trans souffrent vraiment. Alors, en plus, quand on sent qu'on n'a pas le bon corps, mm-hmm. on le sait très tôt. On le sait, on peut le, à 8-10 ans, on le sait déjà. Donc effectivement, c'est quelque chose avec lequel on va être obligé de vivre un certain temps.
Et on l'exprime peut-être quand on comprend, et c'est à peu près l'âge, 15 ans, 16 ans, ce qui se passe exactement dans la tête.
Et la grande difficulté, je crois que pour un trans, la grande difficulté, c'est de dire les choses. C'est très compliqué parce que les gens comprennent pas en face, parce que les parents comprennent pas. Je peux comprendre très bien que les parents puissent, ça puisse être compliqué, mm-hmm. Pour les parents, mais c'est très difficile pour un trans d'aller dire, voilà, je sais pas comment vous l'expliquer, mais le corps que j'ai, c'est pas celui que, dans lequel je suis. Voilà.
Mm-hmm. Clémence Zamora Cruz.
Oui, non, je voudrais quand même intervenir parce qu'en fait, c'est cette idée de mon corps n'est pas le bon, mm-hmm. je suis née dans le mauvais corps. Mm-hmm. En fait, ce sont ce qu'on appelle l'argumentation cisgenre, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas dans un questionnement de leur genre et qui pensent que la norme, c'est être cisgenre, c'est-à-dire mm-hmm. être assigné à la naissance en tant qu'homme ou femme et puis ne pas se questionner sur le genre. Et en fait, non, les personnes trans ne souffrent pas parce qu'ils sont trans, ils ou elles sont trans. Les personnes trans souffrent parce des choses qu'on leur fait subir. Et notamment, tout à l'heure, quand j'ai dit, par exemple, à l'école, quand il y a un enseignant qui nie l'utilisation du pronom ou du prénom que la personne a choisi, donc c'est un acte transphobe, en fait.
Qu'est-ce que ça veut dire, vous, par exemple, Clémence Zamora Cruz, vous avez raconté à plusieurs reprises que vous, votre solution, ça a été de partir.
Oui.
Alors, on est dans un autre contexte, il y a plus le temps que ça, on est au Mexique, mais est-ce que ça veut dire que, finalement, le premier réflexe, c'est celui-là, Joël Demier, peut-être, c'est partir. Comme c'est tellement compliqué à expliquer, on s'en va, quoi.
Oui, partir, c'est un des premiers réflexes. Pourquoi partir ? Parce que le contexte et l'environnement n'est pas accueillant et n'est pas inclusif. Donc c'est pour ça que le mouvement LGBT, les associations, les pouvoirs publics, les entreprises, tous les acteurs de la société doivent faire en sorte que les personnes trans soient mieux incluses. Et on parlait de l'école à l'instant, c'est très important. La transphobie à l'école, c'est très concret. Ça peut être quelque chose de négation de la transidentité, mais c'est très concret. Par exemple, les toilettes binaires, la question des vestiaires sportifs.
Est-ce que ça existe en France, des toilettes binaires ? Non, mais sérieux. Parce qu'on a vu beaucoup, Amérique du Nord, etc. Chez nous, ça existe ?
Alors, il n'y a pas de cas, en tout cas dans les écoles, il n'y a pas de toilettes mixtes. Hein.
Ah ouais.
Donc l'idée, ce serait de faire des toilettes mixtes pour ne pas obliger une personne trans à choisir, ou en tout cas quand elle est dans un questionnement, à choisir entre les toilettes masculines et les toilettes féminines. La question aussi des internats scolaires qui sont genrés, la question aussi des cours de sport dans les vestiaires. Donc tout ça, les pouvoirs publics doivent vraiment se saisir de la question pour mieux inclure les personnes trans à l'école.
Gwenola, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y Gwenola, soyez la bienvenue.
Alors moi, je suis comme Romane, c'est-à-dire que je suis une femme trans pour qui tout se passe bien. Je suis enseignante, je suis restée en poste et ça se passe bien dans mon travail. En famille, ça se passe plus ou moins bien. Ça dépend des personnes. Mm-hmm. Moi, ce que je voulais souligner, c'est la transphobie des médecins. J'ai été à trois reprises, j'ai trois exemples. D'abord, une psychiatre qui a tout simplement refusé de me prendre en charge en me disant, quand je suis allé la voir, voilà, ça fait 30 ans que vous gérez ce problème, continuez à gérer, débrouillez-vous. Mm-hmm. Un médecin de l'établissement français du sang, puisque je donne régulièrement mon sang, qui, du jour où je suis venu en femme, m'a dit « vous n'êtes pas en état psychologique de donner votre sang », alors que je ne fais pas partie des populations à risque.
Et d'ailleurs, quel rapport, de vous à moi, entre l'état psychologique et le fait de donner son sang ça paraît assez
je crois
surréaliste.
C'était tout simplement de la transphobie du médecin. Et le pire, c'est la transphobie d'un médecin de la SOFEC, ces équipes qui prennent en charge, puisque je suis allé voir une équipe médicale pour avoir une vaginoplastie en France. Et donc, c'était un endocrinologue qui m'a demandé à examiner mes parties génitales. On se demande pourquoi, pour un endocrinologue. Et qui, au vu de ses parties génitales, d'un air narquois, m'a déclaré « Oh, mais avec ça, vous avez réussi à avoir deux enfants, parce que je suis une femme trans, mais je suis papa également. Mm-hmm. » Et donc, je pense que cette parole était... Ou ce médecin est totalement stupide, ou cette parole, je pense que c'est plutôt ça, était tout simplement destinée à me blesser ce qui était un échec d'ailleurs, parce que moi je n'avais aucune fierté de ce que j'avais entre les jambes. Mais je trouve ça révoltant qu'aujourd'hui en médecine, rien ne soit fait pour écouter les personnes trans. Or pourtant, eh bien, les médecins sont des personnes qu'on va voir quand on est en questionnement. Et on ne se fait pas aider, on se fait parfois rejeter, et c'est criminel quand on connaît le taux de suicide des personnes trans, et notamment des jeunes trans.
Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous nous expliquez, Gwenola, vous nous disiez que vous étiez enseignante et que ça s'était bien passé. Et c'est ça qui est fou, en fait, parce que dans un milieu où on se dit que ce sera plus difficile, parce qu'il y a des élèves en face, parce que, je sais pas, d'une rentrée à l'autre, ils vous voient arriver différemment, ça devrait théoriquement être beaucoup plus difficile que d'aller devant un médecin, pourtant qui, eux, doivent être non seulement ouverts, mais peut-être même habitués à ce genre de choses. Gwenola, je suis assez curieuse de la manière dont ça s'est passé à l'école, justement, devant vos élèves, vous, l'enseignante.
Ah bah écoutez, j'avais des étudiants, puisque j'enseigne dans le supérieur, j'avais des étudiants que j'avais eu l'année précédente en tant qu'homme et ensuite en tant que femme. Bon, bien sûr, ils ont eu... Allô ?
Oui, bah, je vous entends, bien sûr, allez-y.
Bien sûr, ils ont eu un peu de difficulté à dire madame les premières semaines, et puis après c'est venu naturellement. Voilà, et puis après tout, eux, ils ne réclament qu'une chose, hein, c'est avoir un cours le mieux possible. Alors, je sais pas si je suis une bonne prof, mais en tous les cas, je pense pas que ce soit ma transidentité qui fasse que je sois une mauvaise ou un bon prof.
Assurément non. Merci beaucoup, Gwenola, pour ce témoignage. Pascal Petit, je voudrais qu'on revienne sur ce que disait Gwenola sur la réaction face aux médecins. C'est des choses que vous entendez beaucoup, ça.
Alors oui, mais je crois qu'il y a des médecins incompétents et il y a des médecins ignorants. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène général, que ce soit les médecins, que ce soit même des parents, nous qu'on connaît bien au refuge, il y a un problème de... Je pense que les gens... face à l'ignorance, il y a une espèce de phénomène de rejet, comme ça, physique. Moi, je suis toujours étonné, que ce soit pour les homosexuels ou pour les trans, de voir que, moi, j'ai deux enfants, comment on peut, du jour au lendemain, rejeter son enfant, le mettre dans... C'est souvent par ignorance, par bêtise aussi, mais c'est aussi par peur du qu'en dira-t-on, c'est aussi qu'est-ce qu'on va dire de moi, est-ce que j'ai été une mauvaise mère, est-ce que j'ai été un mauvais père. Et pour les médecins, il y a aussi un problème de formation et d'ignorance totale du problème.
Est-ce qu'il y a un endroit où on se forme lorsqu'on est médecin, quand on a ce genre de questionnement? Comment on fait? Alors peut-être qu'on vous appelle, je ne sais pas, vous, Clémence Zamorocruz, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un endroit? Parce qu'après tout, pourquoi pas comprendre effectivement qu'il y a une ignorance de la part de certains? Rien n'empêche de se renseigner et d'apprendre. Est-ce qu'il y a un endroit pour un médecin, par exemple?
Alors je pense qu'il ne faut pas mettre tout sur le coin de l'ignorance. En fait, il y a aussi des choses qui sont bien ciblées, c'est-à-dire il y a une suprématie cisgenre qui est véhiculée aussi par la médecine. Il y a beaucoup des témoignages des personnes trans qui nous donnent des exemples sur la maltraitance qu'elles subissent au quotidien par les médecins. Et même des médecins qu'on se dit préparés sur la question trans ne le sont pas. Et surtout, la maltraitance vient par exemple sur le fait de continuer à appeler la personne trans par le pronom qui ne lui correspond pas ou le prénom d'assignation à la naissance. Et c'est une violence. Et en fait, c'est une violence qui est consciente, en fait. Elle n'est pas inconsciente.
Joël Demier, est-ce que ça veut dire que... D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes contre des médecins que peut-être vous accompagnez à SOS Homophobie, en tout cas qui sont accompagnés? Et est-ce que ça veut dire aussi que vous avez des médecins référents, en fait, des gens à qui vous envoyez des gens en leur disant « Aie confiance en celui-là parce qu'on le connaît et que c'est quelqu'un de bien ».
Bien sûr, on a des plaintes de ce qu'on appelle la transphobie dans le milieu de la santé, puisque tous les professionnels de santé ne sont pas friendly, c'est-à-dire ne sont pas accueillants pour les personnes trans. Alors après, on a des réseaux SOS Homophobie et surtout dans les associations trans spécialisées partout en France. C'est avant tout elles sur le terrain qui réalisent le travail. On a des réseaux de médecins qualifiés pour accompagner les personnes trans dans le parcours de transition. Pour autant, tout cela, ça pose la question du fait de considérer si la transidentité est une pathologie. La transidentité n'est pas une maladie, n'est pas une pathologie. Et c'est le principal message à faire passer dans notre société aujourd'hui, c'est que il faut arrêter de penser que le fait d'être une personne trans, c'est une maladie. Ça, c'est vraiment un stéréotype qui persiste. et qu'on dénonce. Et pour aller mieux, il faut mieux former les médecins, mieux former les professionnels de santé. Ça passe par une meilleure formation initiale dans les facultés de médecine, sur les transidentités, mais c'est la même chose pour l'homophobie, pour la lesbophobie. Une meilleure conscientisation, une meilleure sensibilisation, et à SOS Homophobie, on délivre des formations dans un centre de santé, dans des facultés. On le propose, mais ça n'est pas systématique. Donc les pouvoirs publics ne l'ont pas encore intégré dans les programmes de formation des médecins, des professionnels de santé. Donc il faut aller beaucoup plus loin dans la formation initiale. C'est une question de culture, en fait. C'est pas une question, c'est une question de connaissance et de culture. Voilà, donc la loi progresse, mais il faut que la société aussi progresse, que les mentalités avancent et que les professionnels de santé se forment.
Clémence Moracruz, et puis on retourne au standard dans un instant.
Oui, donc sur la question de la de cette violence médicale, en fait, c'est la pathologisation des personnes, c'est-à-dire que pour entrer dans un parcours de soins, et en fait, les personnes doivent passer d'abord des entretiens psychiatriques. Pour se faire reconnaître en tant que personne trans. Alors que il n'y a aucun moyen de savoir si la personne est trans ou pas. Seulement, c'est elle à qui revient la décision si, et la prise de conscience qu'elle est trans ou pas.
Bonsoir Alexandre.
Oui, bonsoir.
Bienvenue dans le téléphone sonne, Alexandre, on vous écoute.
Écoutez, moi je vis avec une personne qui est en pleine transition et j'étais assez intéressé d'écouter tous les témoignages là sur le plateau. Mon amie en pleine transition, elle est allée voir une endocrinologue et la première des questions que mon amie lui pose, c'est, vous savez, lorsque je prends des hormones, j'ai mon tempérament, mon caractère et ma personnalité à des moments donnés qui changent un petit peu, est-ce que c'est normal? Et là, l'endocrinologue lui répond et lui dit, oui, vous savez, moi je suis féministe, donc si vous êtes en train de me dire que les hormones jouent sur votre tempérament, ce n'est pas le cas, en tous les cas, c'est pas moi qui vous dirai ça. Bon, c'est pour voir, c'est pour entendre le fait que les personnes, les endocrinologues, ne sont pas assez formées, pas assez qualifiées. Alors, sur Paris et dans les grandes villes, peut-être, mais chez nous, en région, dans la ruralité, c'est pas du tout le cas. Réussir à aller vers une transition, c'est très compliqué pour les personnes lorsqu'elles sont jeunes. C'est vraiment le parcours du combattant.
Pardon de vous interrompre.
Il y a le regard et le rejet.
Alexandre, vous êtes où? Pour avoir une idée, géographiquement, vous êtes où en France?
Je suis à l'aise dans le Gard.
D'accord, ok. Pardon, je vous ai interrompu, voilà. Allez-y.
Non, il n'y a aucun souci. Donc, c'est vraiment très compliqué. C'est un parcours du combattant permanent. Donc, c'est beaucoup de combats. C'est le combat du regard extérieur. Parce que dans la rue, il y a une discrimination qui est quand même quotidienne, surtout quand on est en transition. Et c'est compliqué. Pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la vie personnelle des personnes en transition, c'est vraiment la difficulté. Il faut que l'État, d'abord, c'est vrai qu'en passer par la psychiatrisation, on ne comprend pas pour quelle raison. C'est très difficile. Il faut trouver le bon psy. Vous avez un psy qui va vous dire oui, c'est bon, et l'autre qui va vous dire non. Nous, ça a été le cas. On est allé voir 3 psys. Et il y en a 2 qui ont dit oui et 1 qui a dit non.
Mais qu'est-ce qu'on demande en fait? Qu'est-ce qu'on demande? Je suis très intriguée moi par ça. Qu'est-ce qu'on demande à une personne en transition? Est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes bien sûr? Et on lui pose des questions et on en déduit qu'on n'est pas sûr, c'est ça?
D'abord, ça va être très physique. Alors vous imaginez bien qu'une personne qui est en transition physiquement à la base, elle n'est pas forcément du genre qu'elle souhaitait l'être, qu'elle souhaite être, ce qu'elle ressent, vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, intérieurement, il va y avoir... Elle va se retrouver face à quelqu'un où il va falloir qu'elle soit... La personne va devoir être extrêmement féminine, extrêmement épilée, extrêmement bien coiffée, extrêmement bien maquillée, etc. Et là, ça va être plus facile.
Donc il faut renvoyer des signes extérieurs. En fait, il faut renvoyer des signes extérieurs de féminité. Il faut se caler dans le genre,
va,
en fait.
Votre parcours va être énormément facilité si vous êtes une très belle trans. Si physiquement vous ne correspondez pas aux critères de la beauté, ça va être très très compliqué. Et sur la question de l'éducation, et je le dis sur les associations qui sont sur le plateau et qui le savent aussi bien que moi, il y a 3 heures d'éducation sexuelle obligatoire par an et par classe, lycée et collège, qui doivent être faites et qui sont prévues par la loi. Et ces textes de loi ne sont pas appliqués. Dans ces textes de loi, on peut parler de l'homophobie, de la transphobie, des LGBT-phobies de manière générale. Et jusqu'à l'heure actuelle, ce n'est pas appliqué. Pourquoi? Par manque de moyens. Alors c'est toujours pareil. Sur Paris, peut-être que dans certaines classes, c'est le cas. Mais nous, en ruralité, ce n'est pas le cas du tout. Donc pour faire baisser les LGBT-phobies et la transphobie, parce que c'est important, il faudrait que ces 3 heures d'éducation sexuelle, qui sont prévues par la loi, par an, par classe, lycée, collège, soit effective.
Merci beaucoup Alexandre pour ce témoignage. Pascal Petit, il y a plusieurs choses dans ce que dit Alexandre. D'abord, et c'est juste, le fossé qu'il peut y avoir entre Paris et certaines régions.
Oui, alors en région, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Moi, je parle plutôt des jeunes, hein, puisque c'est ceux qu'on connaît le mieux. Il y a beaucoup d'isolement. C'est-à-dire que, effectivement, à Paris, on a l'impression quand même que tout est plus simple, y compris sur le plan médical, on en parlait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en province et qui sont dans un isolement total, qui savent même pas à qui s'adresser, qui nous appellent en disant « mais je sais pas quoi faire », puisque parfois, enfin, la plupart du temps, ils sont mineurs, donc ils peuvent pas partir chez leurs parents. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai isolement en province.
Et sur la psychiatrisation, encore une fois, Clémence Zamora-Cruz, moi, je suis très intriguée par ce monsieur qui nous raconte que deux fois on dit oui, et puis la troisième fois on dit non. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais parce que la psychiatrisation, la psychiatrie n'est pas une science exacte. Et nous, on la dénonce, en fait, parce que justement, elle vient, elle contribue à ce qu'on appelle le stress minoritaire. Le stress minoritaire, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se sentir très mal à l'aise, qui vont entrer dans un cheminement des mal-être parce qu'on les questionne sur leur identité. Et simplement, imaginez-vous, à chaque fois que vous avez un entretien, quelqu'un vous dit « non, vous n'êtes pas une femme ». Non, vous n'êtes pas une femme. Et à cette assertion ne viennent pas des explications. En fait, c'est une science qui n'est pas exacte. Personne ne peut vivre ce que la personne est en train de vivre et comment elle se sent, qui elle est. Et en fait, la psychiatrisation, nous la dénonçons parce qu'elle vient à l'encontre de l'autodétermination de la personne. Et pas seulement sur les questions des adultes, mais également sur les enfants. Les enfants, ils sont dans la construction de leur identité et il faut justement qu'ils aillent dans l'exploration de leur genre.
Alors justement, tiens, je voudrais qu'on parle de droit aussi et c'est Tania qui va nous y aider. Pardon, bonsoir Tania. Tania, est-ce que vous êtes là ?
Tania ? Je vous entends, vous m'entendez ?
Formidable, je vous entends. Allez-y, soyez la bienvenue, on vous écoute.
Bonsoir. Bonsoir également à toute l'équipe.
Bonsoir.
Donc effectivement, il y a des, comme vous disiez en début d'émission, il y a des barrières juridiques qui sont tombées, mais pas toutes, parce qu'effectivement, aujourd'hui encore, le changement de la mention de sexe à l'état civil est réservé aux personnes majeures. Donc une personne qui, à l'adolescence, assume son identité de genre et veut la faire reconnaître, notamment après quand il s'agit dans le parcours scolaire de faire apparaître sur des diplômes, c'est pas possible. Voilà, ça veut dire qu'il faut changer après, modifier la mention de sexe a posteriori. Mais dans cette même dynamique, ce qui se passe au niveau de l'état civil, en tout cas pour les mineurs, c'est qu'il n'y a pas de dynamique de protection, voilà, des personnes transgenres lorsqu'elles ont besoin d'assumer ce qu'elles sont, d'être visibles, voilà, dans leur parcours scolaire, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique. Voilà. Comme il n'y a pas eu de volonté politique à l'époque, lors de la loi justice du XXIe siècle, de faire une loi protectrice, militante, elle a été faite simplement pour répondre à la condamnation de la Cour européenne, à minima, voilà.
On va rappeler quand même, merci beaucoup Tania pour ce témoignage, on va rappeler que jusqu'en 2016, donc c'est extrêmement récent, comment ça marchait jusqu'en 2016, Joël Demy, rappelez-nous ça.
Jusqu'en 2016, quand vous étiez une personne trans, que vous vouliez changer de sexe, vous deviez avant tout démontrer au juge que vous vous êtes fait opérer, qu'il y a eu un changement physique.
Donc il fallait être transsexuel au plein sens du terme.
Au sens physique, soit par hormonothérapie, soit par chirurgie du corps.
Et depuis 2016,
il faut réunir un faisceau d'indices qui va démontrer, on va montrer au juge par un faisceau d'indices des témoins d'amis,
alors,
du travail,
alors j'allais vous demander, c'est quoi les faisceaux d'indices ? C'est des gens qui écrivent, c'est...
Ce sont des témoins, des témoignages d'amis, de l'entourage amical, professionnel, une attestation comme quoi vous avez changé de prénom aussi. Voilà, vous réunissez des documents pour démontrer au juge que vous êtes bien une personne trans.
Des cartes de sport.
Et c'est quand même le juge qui décide.
Alors voilà, c'est ça devant un juge.
Ça en dénonce.
Oui. Voilà.
Cette judiciarisation du changement d'état civil, on le dénonce. Je pense qu'on est très d'accord autour de cette table. On plaide pour l'autodétermination des personnes trans. Il n'y a que les personnes concernées qui peuvent décider pour elles de quel genre elles sont.
Ailleurs, ça voilà. Se passe comment, par exemple
Il y a des pays où ça se fait à la mairie, par exemple.
D'accord.
Mais c'est pas un juge, en tout cas.
C'est simplement déclaratif, comme à Malte, qui est un très bon élève en Europe. C'est déclaratif devant l'officier d'état civil à la mairie, ou en préfecture, ou...
Devant un notaire.
D'accord. Nous, c'est le juge. Donc, vous arrivez devant le juge, vous prouvez, donc, voilà. En disant, tous mes amis m'appellent Fabienne, etc., etc. Voici les preuves, voici ma carte de gym, etc. Et c'est lui qui inscrit votre prénom, c'est ça? C'est comme ça que ça se passe? Votre nouveau prénom?
C'est lui qui va changer l'état civil, qui va prendre une décision pour transformer le masculin en féminin.
Est-ce qu'on peut faire appel de la décision de ce juge? Est-ce qu'il y a des refus? Est-ce que ça existe?
Il y a des refus.
Clément Zamora-Cruz.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de venir en arrière de comment ça se passe dans les autres pays, en fait. Et le premier pays qui a permis les changements d'état civil des personnes trans basés uniquement sur l'autodétermination, c'est l'Argentine. Mm-hmm. C'est en 2012.
Incroyable pays, l'Argentine, hein, qui est très en avance sur ce genre de choses et qui refuse toujours l'avortement. C'est une parenthèse au passage.
Donc, ensuite, en Europe, on nous a très souvent dit que c'était impossible, que c'était pas faisable, parce que nos lois n'étaient pas faites de manière à aller dans l'autodétermination, etc., etc. Et puis, le premier pays qui ouvre la porte à cette possibilité, c'est la Norvège. Mm-hmm. Donc, on obtient la position de la Norvège, qui est déclarative, et ensuite Malte, qui effectivement ouvre la possibilité de changer son état civil très rapidement devant un notaire. Et en France, on a eu énormément de réticences, on a eu beaucoup du mal à faire évoluer la situation. On ne parle même pas de faire évoluer la loi, parce qu'on n'en avait pas, en fait. Depuis 1992, les personnes trans ne pouvaient pas obtenir le changement d'état civil. Et ces changements d'état civil s'est fait simplement par jurisprudence. Mmh. C'est-à-dire qu'on demandait aux personnes trans d'apporter des preuves médicales et surtout stérilisantes, à prouver qu'on avait été stérilisé pour obtenir le changement d'état civil.
Cette remarque intéressante sur franceinter.fr, lorsque le changement est officiel, certaines administrations sont récalcitrantes, et ce malgré la loi. Mmh. Est-ce que c'est compliqué, lorsqu'on a pu faire changer son nom sur ses papiers, de le faire changer ensuite sur tout le reste? On a l'impression pour ces gens-là que c'est une sorte de coming out permanent, en fait, à chaque fois qu'on passe devant une administration, et y compris devant son club de gym ou n'importe qui d'autre. Est-ce qu'il y a une obligation de suivre pour les entreprises, les administrations surtout?
Bien sûr qu'il y a une obligation légale. Actuellement, ça se fait devant un juge, c'est le juge qui décide, et donc une décision de justice ne peut pas être contestée, elle doit être appliquée. Malheureusement, sur les questions trans, il y a encore cette suprématie cisgenre qui vient interférer sur des décisions de justice. C'est-à-dire qu'une personne qui ne comprenne pas les questions trans, à qui on lui apporte la preuve qu'on a obtenu le changement d'état civil, souvent elle va dire « je ne comprends pas, donc tu ne peux pas le faire en fait ».
Et cette question, tiens, avant qu'on retourne au standard, vers un troisième sexe dans les formulaires administratifs, comme ça commence à exister dans certains pays, en vous écoutant les uns les autres, j'ai l'impression qu'on... pas demain la veille, hein, pour ce qui nous concerne. Pascal Petit.
Vous parlez de quel formulaire?
Je parle d'un troisième sexe dans les administrations.
Ah oui. C'est vrai que
moi je trouve que
enfin de toute façon il y a des freins. Je crois que c'est en 2010, hein, si je me rappelle bien, que Roselyne Bachelot a fait retirer les trans de la liste des maladies mentales. Mm-hmm. Donc franchement, on est très 2016, vous disiez pour la loi, on est très très en retard. Hein. Franchement, c'est il y a du boulot.
Sylvie, bonsoir.
Oui, bonsoir. Mais je rebondis sur votre notion. Allez-y. De troisième sexe. Je suis orthophoniste dans le Jura et ça fait 33 ans que je travaille pour éduquer la voix, et j'ai des personnes transgenres de plus en plus jeunes qui consultent, et je m'en réjouis, avec des parents qui sont très compréhensifs, voilà, malgré les difficultés. Donc j'ai bon espoir, je trouve que ça avance. Et je voulais justement rebondir sur cette idée de troisième sexe avec le très beau livre de Martin Winkler, Le cœur des femmes, cœur comme une chorale, qui parle de cette complexité, du phénotype, de ce qui est apparent, du génotype, etc., et de cette difficulté à trouver sa place et son sexe. Et voilà, donc ne lisez pas la quatrième de couverture, commencez directement le livre, parce que voilà, c'est tellement beau. Et je le recommande aussi aux parents, aux personnes transgenres et aux gens qui veulent essayer de mieux comprendre tout ça. Voilà.
Merci beaucoup, Sylvie, et précisément, tiens, puisqu'on parle des parents à l'instant. Bonsoir, Eve.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, soyez la bienvenue, Eve.
Merci. Alors, je voulais m'adresser, je crois qu'il y a une maman qui a parlé, qui était un peu perdue en début d'émission. Donc, je suis maman d'un garçon trans qui a 18 ans. Je voudrais dire aux parents, juste, le principal, c'est d'aimer votre enfant, de le soutenir et de l'accompagner psychologiquement et puis dans les démarches ou voilà. Comprendre, c'est pas forcément nécessaire, c'est la première chose que les parents essayent de faire, mais en fait ça n'a pas grand sens et puis c'est difficile. Et nous, ce qui nous a beaucoup aidé, le papa et moi, c'est d'aller à des réunions d'échange, à des groupes de parole qui sont ouvertes aux trans et à leurs proches. Donc, c'est souvent les familles, hein, les parents un peu perdus, ou les frères et sœurs. J'ai vu une grand-mère une fois, c'était sympa. Voilà. Et savoir que, pour nous, les parents, nous aussi, il y a une transition. C'est ça prend du temps. Voilà. Mais que, en continuant à aimer, et en continuant à accompagner, et en discutant avec d'autres personnes, ça facilite.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Eve. Et effectivement, Joël Demey, il n'y a pas de mal à pas savoir quand on est parent. Et donc, aller se renseigner, aller discuter avec d'autres et se rendre compte que, voilà, ça fonctionne comme le raconte Eve.
Oui. Bien sûr, les gens sont pas transphobes ou homophobes par nature, c'est simplement le produit d'une culture et il suffit simplement de s'informer, d'essayer de comprendre, de regarder autour de soi pour mieux comprendre et justement mieux répondre aux attentes des personnes trans, des personnes LGBT en général.
Et Pascal Petitien, ça c'est pour vous, parce qu'il y a aussi finalement des moments où c'est plus difficile. J'ai fait mon coming out à l'âge de 18 ans, nous dit ce jeune homme, et quelques mois après, mes parents m'ont mis à la porte, écrit en écriture inclusive, donc M-I-E à la porte grâce au Refuge, association pour les jeunes LGBT. J'ai pu me reconstruire peu à peu. Malheureusement, mes parents ne veulent toujours pas me revoir. Mais
c'est ça. C'est qu'en fait, là, on parle de parents qui sont quand même. Quand on dit il faut que tes parents s'informent, il faut que tes parents avancent dans leur démarche. On parle de parents qui sont pas braqués. Nous, on est confrontés souvent à des parents qui, malheureusement, même plusieurs mois ou plusieurs années après, ont plutôt envie de couper les ponts. Souvent, les enfants veulent revenir vers les parents. C'est ça qui est étonnant, qui est paradoxal. Mais les parents eux-mêmes sont souvent un peu définitivement braqués.
Essayez-vous
aussi optimiste que...
Alors, d'aller chercher
pas...
les parents.
Au moment où c'est la crise, c'est pas forcément le moment. Donc, on essaye un peu après, mais c'est rarement avec succès, franchement.
Clément Samoracros, il nous reste une.
Oui, il y a un élément qu'on oublie très souvent avec les familles, c'est le fait que les familles aussi souffrent de la transphobie, en fait. Quand on est frère ou sœur d'une personne trans et qu'on est mineur à l'école, on va être souvent taxé dès le frère ou la sœur des X, et donc on va être harcelé, on va être aussi violenté, et donc du coup il y a la transphobie qui entre aussi dans la vie des personnes trans, mais aussi dans leur famille.
Merci beaucoup, merci à tous. Le rapport d'SOS Homophobie, c'est demain,
demain
sorti le 15, demain matin, vous l'avez là sous la main, vous allez me le laisser. Merci beaucoup, merci à tous, auditeurs en tout genre, et portez-vous bien.